t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim, aujourd'hui dédié aux jeux de société. J'ai avec moi autour de la table pour en parler, c'est Stereo.
Salut.
Qui va nous parler de...
Tang Garden.
Allez, c'était... Ok. Schnein.
Salut.
Qui va nous parler de...
Brass Birmingham.
Docteur Matt Geek.
Salut.
Qui va nous parler de...
De Horreur à Arkham.
Et moi-même, qui vais vous parler de Parks. Avant de lancer le sujet, petit tour de table habituel sur d'autres jeux auxquels vous avez joué ces derniers temps et qui auraient mérité qu'on en parle, mais on ne peut pas parler de tous les jeux. C'est Stereo. Ouais.
Oui, effectivement, j'ai pu tester Atlante. J'ai fait qu'une partie, mais un jeu de combo, de cartes, très beau. On est dans la beauté aujourd'hui avec Tang Garden et Parks aussi. Donc, jeu de combo qui mérite un peu d'apprentissage. Donc, à voir pour la deuxième partie. Sinon, j'ai testé le jeu de joueurs de Andor, donc Shada et Thor, qui est très sympa. Sinon, qu'est-ce que j'ai pu tester Si, Exit, les catacombes de l'effroi, qui est un très très bon scénario que je recommande.
Ok, t'amènes Atlante ce soir pour la deuxième partie?
Oui.
Ouais, cool, on va l'essayer ce soir. Schnein.
Bon, moi cet été, j'ai pas mal joué à Tu te mets combien, pour faire un peu petit jeu de vacances. J'ai joué à Adventure Games, le donjon. Qui est un peu dans le même format qu'Exit, même éditeur, même type de boîte. Et j'ai joué à un petit jeu assez original qui s'appelle Clip and Cut Parks. Donc là, il y a encore Parks dans le nom, mais en fait, on détruit le matériel en découpant des feuilles. C'est un peu comme les gens Welcome, très futé, mais là, avec une paire de ciseaux.
Ouais, je l'ai vu passer sur un jeu, ça me tente pas du tout.
Non, c'est normal, c'est pas ton type. Ouais.
Moi, j'ai testé Space Base. On en a déjà parlé ou pas?
Je veux voir quelque chose, mais je ne saurais pas te dire.
Un truc où tu dois gérer ton spatioport en achetant des vaisseaux toujours de plus en plus puissants.
Bah, je sais que tu m'en as parlé, mais est-ce que c'était devant le micro?
Des combos. J'ai bien aimé deux choses dans ce jeu, assez sympa. Donc chacun a son petit board devant soi. Il n'y a pas d'interaction spécialement avec les autres joueurs, mais tu joues en mode actif et en mode passif. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je trouve cool, ça permet de rendre active toute la partie. Et puis, tu peux démarrer lentement, tu peux démarrer vite, machin, tu sais jamais ce qui va se passer dans les 15 dernières minutes. Il y a une accélération du jeu qui rend le truc vraiment assez cool, tout le monde a sa chance en fonction de la stratégie que tu as opérée. Donc du coup, il y a un vrai truc qui m'a plu.
Okay.
Space Base.
Ben moi, de mon côté, j'ai essayé Tu te mets combien aussi. Moi, j'ai pas du tout accroché, enfin pas du tout. J'ai pas accroché, mais de base c'est pas trop ma cam, mais j'ai des doutes sur la durée de vie du jeu et sur son fonctionnement même intrinsèque, mais bon, c'est très personnel je pense. Et par contre, bah, j'en ai déjà parlé je crois la dernière fois dans le podcast, moi le jeu de l'été de toute façon c'est The Crew, où j'ai 10 parties en cours, et j'espère aussi qu'on jouera ce soir.
J'ai oublié également de parler de Top 10, donc, qui est pour moi le jeu d'ambiance de l'année même, donc... Il permet de jouer à tout le monde de jouer, même si les gens sont timides, on n'est pas obligé de faire des grandes phrases, on peut dire qu'un seul mot, mais être pertinent. Donc, il y a un thème, on va devoir remettre
les réponses,
tout à fait, dans l'ordre. Donc, il y a un capitaine qui va lui écouter les autres joueurs et remettre dans l'ordre, lui aussi, un nombre. Donc, je vous laisse le tester, c'est en essayant, on voit si ça peut nous plaire.
Tu l'amènes ce soir?
Je peux l'amener aussi, ça, on n'aura pas le temps, sinon on ne va pas dormir. Je voulais aussi parler de Lucky Numbers, qui est actuellement sur BGA, donc Board Game Arena, la plateforme en ligne pour jouer. Il est sorti peu de temps et ils ont fait le challenge de le sortir avant sur BGA pour que les gens puissent le tester
pour
avant.
Pour faire sa promo.
Voilà. Et je pense que c'était une bonne initiative et j'ai pu le tester. C'est vraiment un petit jeu familial accessible et je pense qu'il va marcher.
C'est très moche.
C'est moche, oui, mais je pense que c'est pas le but du jeu, c'est vraiment un jeu vraiment familial et du coup tout le monde peut jouer, les enfants, les parents, les grands-parents.
J'avais une autre question sur Top 10, est-ce que ça ressemble pas trop à Profiler?
Non, pas du tout.
C'est un peu le principe.
Je pense que Profiler se rapproche plus à un Similo, parce qu'on est dans la différence et on doit éliminer des réponses, alors que là, pas du tout, il faut remettre dans l'ordre des réponses. Et en plus, ça demande de l'imagination des personnes parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite.
Et ça permet vraiment de dire des conneries.
Et je joue pas avec les règles d'origine de Profiler, donc moi, il ne rentre pas du tout. C'est encore un problème personnel.
Voilà.
Ok, merci. Merci pour ces petites présentations rapides. On passe au cœur du sujet. Bah, c'est Stereo, c'est encore toi qui te lances.
Allez,
pour nous parler de Tank Garden.
Et je vais parler de Tank Garden. Donc, un jeu qui est sorti cet été. Et sa principale qualité, c'est son matériel. Le matériel est vraiment magnifique. Alors, je suis peut-être superficielle, mais dans les jeux, c'est vrai que la beauté m'attire. Et donc, ça me donne envie d'y jouer, donc comme Parks, comme Tank Garden, comme Atlante que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le matériel est vraiment beau. On a des petits ponts, on a des belles tuiles. Le matériel est de qualité. On a des décorations qu'on va pouvoir placer, des petits arbres. Donc, le jeu, au niveau de la mécanique, reste simple. À son tour de jeu, on a deux actions possibles, soit poser une tuile sur le plateau, soit prendre une décoration. Jusque-là, ça reste simple, mais il y a beaucoup de subtilités. Donc, les tuiles, on a trois types de matériel, donc les forêts, l'eau et la roche. On va pouvoir mettre des tuiles adjacentes, un peu dit comme à la Carcassonne, sauf qu'il est beau. Ensuite, on va pouvoir mettre des décorations, donc on va voir le plateau évoluer, donc il ne sera jamais le même. On va pouvoir voir se construire le jardin nous-mêmes en choisissant nos propres décorations. On va marquer des points en fonction des décorations qu'on va mettre. Donc, suivant si on met des paires de poissons et d'animaux, et d'oiseaux, pardon, ou de lotus et de pivoines. Ensuite, on va avoir des points dus à nos personnages parce qu'on va acquérir des personnages. Donc, on a une piste où on va faire avancer nos cubes sur la roche, l'eau et la forêt en fonction de ce qu'on aura positionné sur le plateau, en tuiles adjacentes ou en fermeture de zone. On va pouvoir recruter donc des personnages en fonction de l'avancée sur nos pistes. Et les personnages ont des pouvoirs, des petits pouvoirs, donc des pouvoirs quand ils sont dans notre main, et des pouvoirs qui vont nous faire gagner des points quand ils vont être placés sur le plateau. On ne peut avoir qu'un seul joueur en main, personnage en main. Les autres vont être placés sur le plateau et on gagne des points en fonction de ce qu'ils vont voir, soit dans leur ligne de vue, donc dans la ligne, en fonction de la position du personnage, ou dans le paysage qui est en face. Donc ça va être des mécaniques un peu différentes en fonction de, pour marquer des points, donc positionner ces décorations pour qu'ils nous rapportent des points. Je trouve que le jeu n'est pas si simple en soi. Il y a pas mal, comme je disais, de subtilités, de petites choses qu'il faut maîtriser, qu'il faut bien vérifié, mais le jeu reste, je trouve, assez zen. Quand on place ses décorations, il faut quand même vérifier ce que fait l'adversaire, justement, pour ne pas se laisser distancer au niveau des points. Mais il est agréable à jouer. Je trouve que la mécanique, moi, est assez innovante, justement, sur le placement, l'évolution du plateau. Et donc, moi, il m'a vraiment suscité un grand intérêt et j'ai envie d'y rejouer. J'ai fait que deux parties pour l'instant à deux joueurs, donc j'aimerais bien tester à plus, 3 et 4, pour voir ce que ça peut donner.
Pas noté encore, sur Kifim, tu mettrais combien?
Je mettrais un bon 8.
Ah ouais. Alors c'est sûr que quand tu as amené la boîte, quand on regarde la boîte et quand on voit le matos, déjà c'est conséquent, parce que pour des parties qui sont données 45 minutes d'après la boîte, tu as une vraie grosse boîte, hein, format plus grosse qu'un Terraform du Mars quasiment, et tu as du vrai matériel dedans, carton épais, qui... espèce de petit,
volume,
qu'on appelle ça, 3D, un petit machin, ouais. En 3D, là, espèce de pâte à bris de jardin.
Des pagodes.
Oui, des pagodes. Des petits kiosques, ouais. Et ça, c'est le kiosque que je cherchais. Qui
combien
est un vrai matos, quoi.
Je ne sais plus de mémoire, il doit être aux alentours des 50 et quelques euros. Donc c'est vrai qu'il est assez cher, par contre le matériel est conséquent. Et les parties, je les trouve, passent assez rapidement. Donc,
1 à 4 joueurs.
1 à 4 joueurs. Okay. J'ai pas testé le mode solo.
Okay, ouais.
Y avait dans ce que tu as dit un truc hyper intéressant sur l'aspect beauté des jeux. C'est vrai que, parce que moi je vais en parler aussi tout à l'heure, et autant je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a de l'importance quand tu joues à un jeu, t'aimes bien avoir du beau matos et tout, mais d'un autre côté, il y a des fois je m'en fous complètement, quoi. Alors, on peut justement prendre l'exemple de Terraform Mars, qui est clairement un des meilleurs gros jeux des 10 dernières années, et qui est sûrement un des plus moches aussi, quoi.
Ben moi je le trouve pas si moche, parce que chaque carte en fait déjà à un graphisme différent. Donc déjà, ils ont fait le travail sur...
Ouais, alors ça, c'est l'illustration, c'est pas le matériel. Tu vois, tout ce qui est les petits cubes, les plateaux...
Les plateaux, ça, on est d'accord.
Ils sont ratés, quoi.
Ils ont essayé de refaire des plateaux, mais...
matériel raté ne veut pas dire forcément moche.
Ah non, ah,
c'est ce qu'il dit. Non mais si, ouais, non, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais en même temps, ils ont aussi été dans les premiers à sortir du gros jeu comme ça, du machin. Donc, mais non, mais je veux dire, il n'y avait pas encore des mecs qui mettaient vachement de pognon dans le matos, tu vois. Et donc, ils n'avaient pas besoin, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de se sentir, on a besoin d'élever le...
Il y avait moins de sorties avant aujourd'hui, il faut se démarquer d'une...
Il y avait moins de sorties, mais on était quand même, on avait déjà terminé l'époque des jeux à l'allemande, façon Puerto Rico et Gailus et compagnie, qui étaient vraiment d'un graphisme un peu daté. Cette époque-là, elle était déjà terminée. Donc, d'ailleurs, ils ne sont pas dans cette époque-là, ils sont dans un autre graphisme, qui n'est pas non plus ce qu'on voit maintenant, effectivement, avec des choses comme Town Garden et même Parks, mais ils sont quand même un peu passés à côté du truc, quoi.
On devrait faire un podcast sur les jeux les plus moches qu'on aime le plus.
C'est une idée.
Ok, donc grosse recommandation de Town Garden. Oui. Tu l'amènes ce soir?
On n'aura pas le temps, mais c'est vrai que voilà, il est décrié par la moitié, on va dire que 50-50, les avis sont partagés sur ce jeu. Mais moi, je trouve que vraiment la mécanique, elle est assez intéressante quand même, et ça apporte des choses de poser des décorations, de placer ses personnages en fonction de leur orientation, on va marquer plus ou moins de points. Donc, je pense que ça, c'est à tester en tout cas pour se faire un avis.
Ok, ben merci Sarah pour la présentation de Top Garden, et puis je vais passer la parole à Dr Mad Geek qui nous parle de Horror Arkham, le jeu de cartes.
Ouais, le
jeu de cartes évolutif.
Le jeu de cartes. Évolutif. Alors, je vais en parler avec Chenin un peu parce que d'abord, c'est lui qui m'a fait tester. Je fais partie de ceux qui aiment Lovecraft depuis longtemps. Et donc, ce jeu, comme son nom l'indique, prend place dans l'univers Lovecraftien. C'est moi ce que j'appelle un gros jeu. Alors, j'ai pas les détails de l'éditeur et tout ça. Peut-être que Chenin fera un.
C'est Edge. C'est Edge qui fait tous ces jeux.
Ok. Et donc, j'ai découvert ça. Beau matériel. Alors, on joue des enquêteurs voilà, qui sont plongés dans l'univers de Lovecraft avec tout ce que ça draine dans son sillon de choses lugubres, d'ésotériques, d'abysses sans fond, de folie surtout. C'est le gros point fort du jeu. C'est son côté immersif. Enfin, j'ai même envie de dire que le gros point fort, c'est la rédaction de l'univers, des cartes. Ça a été fait, mais c'est hyper pro. Il me semble même qu'en fait, ils ont pris un grand soin en fait à traduire des vrais passages de livres, des choses machin, qui sont hyper bien retranscrites avec des cartes qui illustrent très bien ce que tu es en train de lire. Donc là, pour le coup, tu te sens vraiment un petit peu comme dans. Il y a un vrai côté jeu de rôle un petit peu. T'as un personnage devant toi. Que tu vas pouvoir armer, alors qu'il y a plus ou moins de points de vie, plus ou moins de points d'intelligence, de volonté, de force, etc. Et que tu vas pouvoir armer, mettre un truc par-ci, un truc par-là, avec ce vrai côté jeu de rôle où tu as le droit d'avoir un truc dans chaque main ou un truc à deux mains, mais pas plus. Si tu as déjà un truc autour du cou, tu peux pas en mettre un deuxième. Donc ça, je trouve que ça rajoute à l'immersion. C'est vraiment, tu te dis, ok, c'est vraiment mon truc. T'es pas dans un film de John Woo où t'as des chargeurs à l'infini, et t'es pas dans un jeu de rôle papier où le maître du jeu te dit rien si t'as 3 arbalètes et 2 trébuchets dans ton sac à dos, quoi. Donc il y a un vrai côté hyper sympa, il y a plusieurs scénarios. C'est un des aspects pour l'instant donc j'ai pas encore pu tester, mais c'est un jeu à campagne. Donc tu commences, et ce que tu vas gagner au cours d'une partie, tu commences avec ça sur la partie d'après. Donc tu peux suivre comme ça des parties avec un personnage aussi qui évolue. Ça peut être vraiment sympa, ça rajoute encore au côté immersif. Chenin m'a fait jouer à ça sur un superbe tapis. Il est dans le jeu, le tapis ?
Non, c'est
un petit cadeau bonus.
Ouais, c'est ça.
Donc sur un super tapis de jeu qui renforce aussi ce truc-là, parce que graphiquement, c'est très joli. Visiblement, il y a quand même quelques côtés négatifs pour moi, qui ne le sont pas pour tous. Visiblement, il y a un temps de préparation qui est plus long que la partie elle-même, presque. Moi, personnellement, ça me poserait problème.
Comme un jeu de rôle.
Ouais, c'est vrai, comme un jeu de rôle. Après, c'est toujours le même qui se tape la mise en place, quoi. Tu vois, donc,
comme un jeu de rôle.
Ok. Et en fait, là où j'ai trouvé que leur grosse force, en fait, devenait une faiblesse pour des joueurs comme moi, c'est-à-dire que... Alors déjà, j'ai eu l'impression que la moitié du jeu est sous-exploitée. C'est-à-dire que pour un... Alors après, c'est la première partie. Chenin va contrebalancer ça, je pense, mais première partie d'intro, en mode un peu facile. Donc déjà, tu te donnes ou pas un personnage, tu le choisis plus ou moins ou pas, mais tu essaies quand même de faire des trucs un peu équilibrés. Donc je me suis retrouvé avec Wendy, la gamine, qui peut pas donner un coup de poing. Alors, c'est un choix, hein, je fais comme ça, t'as plus de points de volonté, d'enquête, etc. Machin, bon, voilà, ça te ressemble ou ça te ressemble pas, peu importe, tu peux te mettre vite dans la peau du personnage, et tu joues assez vite le truc. C'est assez vite marrant de se dire, on est dans la même pièce, on peut se parler, on n'est pas dans la même pièce, on peut plus communiquer, etc. T'entends des cris, bah, l'autre il peut faire « Ah, il se passe un truc !» Alors c'est assez marrant, quelque chose que j'aime bien. Par contre, je trouvais que le jeu s'affranchissait de certaines règles un peu de causalité, donc c'est-à-dire que en fait, le jeu te met un peu la pression. Avec chaque tour, tu sais, tu rajoutes un jeton KO, là, qui fait qu'au bout de tel tour, il va falloir retourner la carte, qui fait que tu passes un peu au chapitre après. Enfin, ça te précipite un petit peu l'histoire, alors que toi, tu es censé réussir à récolter des indices et tout ça. Et en fait, en te forçant là-dedans, bah, parfois, tu vas retourner des cartes qui disent « Et voilà, le mur n'est plus là, vous vous retrouvez dans la pièce machin. » Alors qu'en fait, tu n'étais pas du tout là. Et que tu aurais aimé, comme dans un jeu de rôle, dire bah, « Je repasse par le vestibule. » Je fais ci, là c'est normal, je vois ça. Et là le jeu parfois te projette un petit peu en avant pour te faire rattraper un peu la course du jeu. Et moi ça m'a complètement sorti du truc quoi. J'ai trouvé que tu subissais un peu ces trucs-là de façon pas très logique. À son corps défendant, j'ai envie de dire, l'univers du jeu fait que tu peux presque accepter des trucs pas logiques. Parce que c'est Lovecraft en fait quoi. Ça te tombe dessus, c'est le chaos, c'est la folie. Est-ce que les trucs se passent pas dans ta tête? Est-ce que machin? Bon. Donc il y a vraiment une très belle écriture, il y a des belles illustrations. Par contre, voilà, tu te retrouves avec des cartes où moi j'ai eu l'impression que bah, les montres, il y a trois valeurs, mais en fait, il n'y en a qu'une qui t'intéresse. Dans les pièces, tu as des valeurs machin de chaos cosmique, où je peux dire, tu t'en sers pas. Ton personnage, tu as plein de cartes dans les mains, bon, bah, il y a les trois quarts, tu vas pas avoir le temps de t'en servir. Voilà, je trouvais ça un peu sous-exploité, donc j'ai l'impression que mon expérience a été un peu... Il faut que je lui laisse une autre chance. D'abord pour jouer la campagne, et ensuite et te dire, voilà, je continue avec ton background, avec tes petits trucs que t'as gagné ou pas, voilà. Et puis rester avec son colistier, tu vois, continuer l'aventure. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire, et je pense que ça peut, au fur et à mesure, vraiment te faire rentrer dans le truc. Moi, je dépenserais pas des sous là-dedans, parce que bah, faut être fan. Je comprends pas comment Chenin, il a le courage de rejouer des intros avec trois personnes différentes. Je comprends pas. Moi, une fois que tu as joué le truc, je vois plus l'intérêt de rejouer le même truc. Du coup, tu as l'impression que quand tu l'achètes, c'est voilà, c'est un truc à partager avec mes deux potes là ou trois, et c'est avec eux qu'on va faire le truc jusqu'au bout. Ce qui est pas si con, hein, mais moi, auquel cas, je ferai un truc où tout le monde, voilà, tout le monde met 30 balles, et puis on s'achète le truc, et puis on joue tous jusqu'au bout aux campagnes. Mais c'est pas un truc que je mettrais dans ma ludothèque. Voilà.
Ouais, alors moi, j'ai joué il y a longtemps déjà. Je vais plus du tout rentrer dans les détails parce que déjà, je m'en rappelle pas. Je me rappelle que j'avais envie de rejouer, donc j'imagine que je partage pas de ton point de vue. Je voulais juste revenir sur un point. Quand tu dis c'est un gros jeu, c'est un gros jeu en durée et en investissement. Ouais. C'est une petite boîte et c'est un relativement petit investissement par contre.
Ah ouais.
Alors, oui et non.
Ah, parce que la boîte de base
est pas chère, mais sachant qu'il y a 6 campagnes et chaque campagne contient les deux, le premier scénario et après il faut acheter les autres à part.
Ah oui.
À chaque fois tu mets quand même entre 15 et 20 euros. Je pense que si tu es fan, tu achètes la totale, tu peux y mettre un sacré budget quand même.
D'accord, mais tu peux tester le jeu avec, voilà,
à 30 avec, euros,
un
tu peux l'essayer.
Avec un budget restant. Ok. Bah ouais, je les mettrai pas quand même. mais c'est le genre de truc, voilà, une fois que quelqu'un l'a joué, c'est le genre de jeu que tu peux plus facilement retrouver peut-être sur le marché de l'occasion.
Ah, ça se trouve facilement en plus.
Ok.
Et il y a même des gens qui achètent deux fois la même boîte pour pouvoir jouer à quatre.
Ah oui, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça, il y a des gens qui faisaient ça, ouais.
C'est un jeu à deux à la base, hein.
C'est un jeu à deux.
Je savais même pas.
Seul ou deux. Mais avec une seule boîte, tu peux pas jouer à plus de deux.
Voilà, puis il y a clairement des gens qui disent que ça vaut pas le coup d'acheter deux boîtes pour jouer à quatre, autant acheter plutôt tel truc, tel machin, voilà.
Alors si je peux compléter un peu rapidement.
Bien sûr.
Déjà, je suis d'accord avec toi qu'on peut y retrouver un côté jeu de rôle, mais en même temps, ce n'est pas un jeu de rôle. C'est, en fait, on est là sur du deck building. Le deck building, je pense que tu n'en as peut-être pas beaucoup fait. Edge est spécialiste dans le deck building. Récemment, ils ont sorti un deck building dans l'univers de Marvel, Marvel Champion.
Pas mal, d'ailleurs, il paraît.
Oui, il est sympa. Ils ont exploité l'univers aussi de Seigneur des Anneaux. Et j'en ai essayé beaucoup. Et honnêtement, c'est Horror Arkham qui me plaît le plus. Après, c'est parce que c'est Lovecraft. Ouais. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi parce que c'est le plus abouti. C'est-à-dire que quand tu as essayé celui-là, tu passes à un autre, tu le trouves vraiment simpliste à côté. Et en même temps, c'est ce qui fait son défaut. C'est-à-dire que moi, c'est un jeu que j'adore, qui est dans mon top 3 depuis au moins 5 ans. Mais malgré tout, je suis d'accord, il y a des critiques, il y a des défauts à ce jeu. Et je vais dire quand même, pour moi, les deux principaux défauts, c'est tout d'abord les règles. C'est rempli de mots-clés.
Ouais.
Et j'ai dû faire un pense-bête, parce qu'il y a des fois, on a oublié le petit détail. Donc il y a un vocabulaire, il y a un langage, en fait, qui est autour du jeu. Et le deuxième point négatif, c'est que je trouve que ça bastonne un peu trop, à mon goût. Alors ça, en même temps, ça peut dépendre des campagnes. Si on s'enseigne, on peut tomber sur des campagnes où on est un peu plus dans l'enquête. Et ça, c'est quelque chose qui, au final, pour moi, est aussi très positif. C'est que il y a une rejouabilité vraiment énorme. Parce que tu fais une campagne, en fait, tu pourrais très bien faire 5 fois la même campagne, ça ne se passerait pas de la même manière, parce que ça va dépendre de chaque action, chaque choix que tu vas faire. J'ai testé des campagnes où à la fin de chaque scénario, on avait le choix entre 4 conclusions. Et après, bah, en fait, tu prends un embranchement et toute la suite va dépendre des choix que tu as fait.
Oui, il y a ce petit truc qui est assez sympa dans le jeu, c'est vrai.
Et ça, c'est un truc qu'on ne trouve pas ailleurs, dans les autres deck building.
Mais ça n'empêche que là où... alors moi, j'étais assez content qu'il y ait un peu de fight, machin, parce que ça met toujours un petit peu de piment, même si c'était pas moi qui t'appelle. J'étais là derrière, j'étais « Vas-y Roland, vas-y, fous-lui une grosse balle de magnum dans le cul !» Mais sur ce côté enquête, je vois pas où est le plaisir, en fait, à se dire « Ouais, il y a des trucs un peu plus enquête. » Alors qu'en fait, l'enquête, c'est tu mets la main dans un sac, et puis si le jeton que tu sors il te permet de réussir le truc est réussi, et tu retournes un petit jeton. Il n'y a pas d'enquête, je veux dire. À un moment, ils te disent « T'es bloqué devant un mur de feu. » Et puis tu retournes une carte, c'est alors, vous prenez le tonneau de glace et vous le jetez sur le feu. Ah ouais, mais il n'y a aucune notion de
alors, tout d'enquête. À fait, tout à fait. Mais c'était ça ou un jet de dés.
Et en fait, c'est pas ça ou un jet de dés. En fait, c'est ça ou un jeu de rôle.
Oui,
oui on est d'accord. Ce que tu veux, c'est un jeu de rôle.
Ou un unlock.
C'est vrai.
Non, ou alors tu fais un jeu à l'unlock. Mais là,
c'est vrai.
C'est un jeu où pour simuler le hasard, il fallait quelque chose.
Moi, je trouve que c'est
beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stressant de mettre la main dans le sac que de lancer un dé, quelque part.
Ah, c'est parce que tu regardes Fort Boyard.
En fait, je pense que ça changera. En fait, ce que j'entends quand vous en parlez, c'est que pour moi, c'est un jeu de rôle qu'ils ont voulu amener en jeu de société, quelque part. Du coup, un jeu de rôle, c'est quoi? Un jeu de rôle, c'est quelque chose qui demande de l'investissement. Tu vas y rejouer souvent avec les mêmes personnes pour faire des campagnes, etc. Ça, vous le retrouvez dans le jeu que vous décrivez. C'est-à-dire, il va falloir s'investir dans le jeu et jouer avec les mêmes personnes pour avancer dans les campagnes. C'est ça, l'objectif. Et après, pour l'amener au jeu de société, eh ben, ils ont dû trouver des stratagèmes qui faisaient que tu faisais pas des jeux de dés comme au jeu de rôle, qu'il fallait que tu avances dans le jeu, parce que pour un jeu de rôle, bah, tu peux traîner quelque part, c'est au maître de jeu de te faire avancer. Mais là, ils ont besoin de te faire avancer dans le scénario. Donc, de temps en temps, il te pousse un peu en avant, c'est ça que tu décrivais. Et du coup, je pense que c'est un jeu de rôle amené sur table, quoi. Commodore, un peu quelque part, qui a aussi des défauts, qui sont autres, mais qui est un jeu de rôle amené dans le jeu de société.
Il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est son aspect littéraire. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'impression de lire quelque chose qui a été vraiment très bien écrit, très bien traduit. Et il y a un scénario, il y a une campagne que j'ai commencé qui s'appelle Carcosa et qui est en fait inspirée d'un livre qui s'appelle Le Roi en jaune. J'ai donc découvert ce livre, ça m'a donné envie de le lire et j'ai découvert que c'était un des livres qui avait influencé Lovecraft. Et ça, je trouve que c'est une force de te faire découvrir dans un jeu quelque chose.
Il y a un fondement vraiment. Ouais. Clairement, c'est un bel hommage à l'univers de Lovecraft. Ils se foutent pas de la gueule du truc. Quoi.
Donc, en gros, si on est.
Je ne connais pas du tout ce type de jeu, donc je ne peux pas trop donner mon avis. On m'en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi, l'investissement en mode campagne, je ne suis pas encore prête. Après, j'ai fait, moi, les Pandémies Legacy en mode campagne. Mmh. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que le mode campagne, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il faut être prêt à cet investissement.
C'est ça.
Ok, donc on réserve aux passionnés ou aux intéressés de l'univers.
Ouais, c'est ça.
Ok, d'accord.
Et à garder l'œil si vous le trouvez en occasion, parce que aussi c'est peut-être la bonne occasion pour tester ce genre de jeu. Voilà.
De toute façon, il y a toujours plein de jeux en occasion, à chercher en occasion. Merci Dr. Bad Geek pour cette présentation de Horror Arkham, donc le jeu de cartes, qui ne laisse pas indifférent, on l'a vu. Et je vais prendre la parole pour vous présenter Parx. Donc Parx est un jeu de Henri Audubon, qui avait fait au préalable Space Park et Kingswood. Le mec, il est un peu dans le thème parc-forêt. Hein. Alors, je vois à vos têtes, et je le sais à moi, qu'on n'en a jamais entendu parler. J'ai cherché, a priori, ils ne sont pas sortis en France.
D'accord.
Sachant qu'en plus, il y en a un autre, Kingswood, il est 2020 également. Donc, peut-être il sortira, on ne sait pas. Et l'autre est de 2018. Donc pas un auteur connu en France. Et c'est un jeu qui est illustré, et ce sera, c'est important de le noter parce qu'on en reparlera, qui est illustré par un studio. Donc souvent on voit un jeu qui est illustré par Vincent Dutrey. Enfin, il y a des illustrateurs qui se font des vrais noms, quoi. Là on est sur un studio donc, qui s'appelle 59 Parks Print Series. Voilà, je ne les connais pas. A priori c'est un regroupement de plein de gens et tout. Je ne sais pas si le fait qu'il y ait Parks dans le nom a un lien avec le jeu ou pas. Toujours est-il que, et je le redirai, ils ont fait du bon boulot. Donc on est sur un jeu de 2020 en France, donc qui est sorti cet été, qui était bien attendu, et qui est édité en France chez Matago. On est clairement sur un des cartons de l'été. Un jeu très attendu.
De l'année.
De l'année même, ouais. Donc en même temps, l'année est tellement particulière.
Oui.
Un carton, quoi. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 1 heure. Donc, de quoi ça parle Parks? En gros, dans Parks, chaque joueur va incarner 2 randonneurs, donc qui parcourent des sentiers durant les 4 saisons de l'année. Et chaque fois qu'ils partent en randonnée, ils vont acheter des équipements, des souvenirs, qu'ils pourront par la suite échanger contre des visites dans d'autres parcs. Alors, dit comme ça, c'est un petit peu tarabiscoté, mais les éléments du jeu, la boîte, les illus, sur lesquels je reviendrai encore de toute façon, plonge dans le thème. Donc en soi, c'est pas trop plaqué quand même, quoi. Du coup, ce que j'en ai pensé... Alors déjà, ce que j'ai pas fait un gros teasing là-dessus, mais le premier point qu'il faut noter sur Parks, c'est que c'est un petit format, c'est une boîte qui est assez petite, mais qui est très pleine. On prend la boîte, elle est lourde, et elle est bien remplie, et c'est tout assez, chaque chose à sa place et tout.
Ce qui est rare.
Ce qui est assez rare, ouais. On est plutôt dans une époque de boîte vide, donc là, c'est pas du tout le cas. Et, second point, le matériel est superbe. Enfin, on parlait tout à l'heure de Tank Garden, c'est un autre style différent, Parks, mais vraiment, c'est top. Le papier des cartes, le papier des règles est de qualité. On a un papier qui a du grain, qui est épais en main, c'est vachement agréable à manipuler. Ensuite, on a plein de petits meeples en forme de soleil, de sapin, de gouttes d'eau, qui sont en bois, qui sont également vachement bien faits. Et ils ont été encore un petit peu plus loin, parce qu'il y a des meeples bonus, on va dire, qui sont...
Jokers,
voilà. Ils sont carrément tous différents. Donc là, ils sont en forme d'animaux. Et voilà, il y a un cerf,
un dauphin,
je sais pas.
Une chauve-souris.
Voilà, un bref. Renard, tous différents. Donc c'est quand même du boulot. Donc je crois que le jeu, par rapport à la taille de la boîte, on le trouve un peu cher, parce que quand on voit une boîte de cette taille-là, on a tendance à se dire, ah bah, je sais pas, c'est peut-être un jeu à 30 balles, et alors que là, ça doit être 40, une quarantaine d'euros peut-être.
Oui, 43, je crois.
Ouais, voilà. Mais clairement, la boîte est pleine. Donc, vous fiez pas à la taille de la boîte. Je pense qu'on peut dire qu'il vaut son prix. Rien qu'en termes de travail d'édition, qualité du matériel et qualité des illustrations, c'est un sans faute. Hein. C'est vraiment nickel.
Ouais, puis le DA vous dira que même les nuanciers de couleurs sont nickel, quoi. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas une couleur qui est belle. C'est même les couleurs entre elles sont bien pensées, quoi.
Mmh. Non, ouais, je crois que donc ce fameux studio, la 59 Sparks, a super bien bossé sur ce jeu-là. C'est agréable, hein, vraiment.
Il y a des
quoi.
Petites photos aussi qui sont toutes uniques. Les cartes des parcs sont toutes ouais. uniques. Mmh.
Donc voilà. Aspect graphique, sans faute. Vraiment parfait. Sur le jeu en lui-même, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la mécanique, elle est pas plaquée. Alors, elle colle pas parfaitement, on comprend pas trop cette idée de j'achète des souvenirs que j'échange contre des visites dans des parcs. C'est un peu, voilà, un peu tarabiscoté. Donc c'est pas parfait, mais c'est pas plaqué non plus. Le matériel aidant, on est bien dans l'univers, on prend vite, il y a des jeux quand les thèmes sont plaqués, on n'utilise pas les termes du jeu, on dit bah tiens, je prends un petit bonhomme, je le fous là, j'en ai rien à foutre quoi. Là non, on va vraiment dire bah, je prends tel parc, je vais m'acheter des jumelles, je sais pas quoi, dans les équipements. Donc ça marche. Bien, on adhère vraiment à l'univers du jeu et on se plonge dedans assez facilement. Donc voilà, il n'y a rien de particulier à dire. C'est pas forcément très innovant comme jeu. On va se déplacer sur une piste et on va s'arrêter sur certaines cases qui vont nous permettre de faire certaines actions. Cette description-là, mot pour mot, c'est Tokaido. Après Tokaido, il n'y a pas cette notion de saison, forcément, c'est pas les mêmes cases et il y a des différences. Mais c'est un mécanisme qui est connu. On n'est pas sur quelque chose de complètement nouveau. Après Tokaido, c'est de toute façon aussi un excellent jeu et aussi extrêmement bien illustré. Enfin, je veux dire, c'est pas un frein. On pourrait se poser la question, si j'ai Tokaido, est-ce que je vais sur Parks? Je suis pas capable de répondre à cette question-là, je fais aucun des deux. Mais pour moi, c'est voilà. Peut-être quelqu'un qui serait hyper habitué à Tokaido pourrait se poser la question.
Moi, je pense que les deux jeux n'ont rien à voir déjà par rapport à la mécanique qu'on peut comparer, mais la mécanique principale de Tokaido, c'est que c'est le dernier joueur qui joue. Donc déjà, ça incite la stratégie différente, puisque si on avance...
Tu gères le dernier sur le parcours.
C'est le dernier sur le parcours qui va jouer. Ce n'est pas le cas là dans Parks, on joue chacun notre tour, un randonneur, et donc il n'y a pas déjà cette mécanique de laisser derrière comme ça la possibilité. Donc on en parlera derrière par rapport à ça. Mais du coup, cette mécanique de jouer le dernier joueur sur le plateau joue amène une stratégie forcément déjà différente.
On est bien d'accord que c'est pas un copier-coller, il y a peu de copier-coller. Mais voilà, c'est pour faire
un parallèle. Et du coup aussi, c'est un mécanisme de collection de ressources. Et Tokaido, pour moi, ce n'est pas collection de ressources pour acheter des choses.
Non, alors il n'y a pas ça.
Parc, c'est vraiment, on collecte des ressources pour pouvoir acheter nos parcs.
Donc, on est bien d'accord. Il y a des différences. Si j'avais voulu pousser les comparaisons plus loin, j'aurais pu dire, on avance sur un parcours, c'est du Maracaibo, mais... Je pense que là, tu m'auras encore plus rebattu le claquet.
Non, je trouve que finalement, dans la mécanique, ça ressemble plus à ça, parce que dans Maracaibo, bah, on va pareil collecter des ressources pour faire des actions, etc., qui est finalement moins Tokaido aussi, je trouve.
Bon, petit désaccord. Enfin bon, vous avez l'idée, ça ressemble de loin, en tout cas, au moins à Tokaido. Au niveau des règles de jeu, franchement, c'est hyper fluide comme jeu, ça se prend hyper bien en main. Moi, je sais que c'est donc c'est Stereo qui m'a appris à jouer, je l'ai très rapidement poussé... pour qu'on joue, j'avais pas trop envie d'écouter des règles longtemps, ça me paraissait le genre de jeu qu'on pouvait découvrir en jouant. Il y a des jeux quand on fait ça, il faut, on va dire, un tour complet pour bien se rendre compte de ce qu'on peut faire. J'ai pas du tout eu ce sentiment-là comme dans Parks. Voilà, dès ma première action, j'ai posé peut-être 2-3 questions, mais on joue. Et voilà, enfin, de toute façon, les 2-3 premières cases n'ont pas une grosse incidence. Donc, ça se prend hyper bien en main, c'est hyper facile, c'est fluide. Après, je pense... que c'est quasiment impossible de gagner sa première partie. Bon, spoiler, moi je me suis pris une pile. Mais je trouve que... Bah, en plus, on a eu des petits désaccords sur les règles, on en reparlera. Mais je pense que globalement, pour bien comprendre ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, je trouve que c'est pas un jeu où on gagne forcément, quoi. En tout cas au début, quoi. Donc voilà. Alors, on a un peu, pareil, abordé le sujet. Il y a, dans Parks, pour moi, il y a un petit bémol. Alors c'est très très con, mais c'est un ressenti sur une partie. Il y a une règle qui, pour moi, dans la règle, est bien écrite noir sur blanc, mais elle s'applique pas, nous on a joué à 3, et elle devrait pas s'appliquer à 3 joueurs. Du coup, ils disent que accélérer la partie en finissant une saison, c'est un peu un moyen de mettre la pression sur les autres joueurs, et que ça peut être utilisé comme stratégiquement. Du coup, je me suis dit tout connement, youpi, je vais faire ça, et je vais aller vite, pour que les autres ne puissent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. En fait, ça leur a permis de faire absolument tout ce qu'ils voulaient pendant que moi, j'avais fini de jouer. C'est pas un biais dans le jeu. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et je pense que c'est une règle d'un peu de joueurs qu'ils auraient dû amener différemment. En tout cas, clairement, c'est quelque chose qu'il faut pas appliquer. Alors, encore une fois, quand tout à l'heure, je disais c'est pas un jeu où on gagne sa première partie, ça vient peut-être de là aussi. Là, je me ferais pas avoir une deuxième fois. Mais du coup, j'ai trouvé dommage que ce soit énoncé aussi clairement dans les règles. Donc, je peux aussi dire que c'est de la faute de Cestério qui, à l'oral, me l'a dit.
je l'avoue, en fait, c'est vrai que moi, j'y avais joué à 2 joueurs et on utilisait la règle d'aller à la fin pour faire finir le deuxième joueur. Sauf que déjà, dans le cas de 3, ben, si le premier joueur finit, il reste 2 sur le plateau. Après, voilà, c'est plutôt une mauvaise compréhension, mauvaise interprétation de la règle, parce que la règle dit bien que s'il ne reste un seul joueur, un seul randonneur, pas un seul joueur.
C'est pour ça qu'au début, j'ai insisté sur le fait que chaque joueur avait 2 randonneurs.
C'est bien précisé dans la règle que s'il ne reste qu'un seul randonneur, il est obligé de rentrer. Donc oui, d'une certaine manière, on peut utiliser ça stratégiquement pour faire finir un joueur. Mais il faut qu'il ne reste plus qu'un seul randonneur, et donc c'est à nous, finalement, de faire attention de ne pas lui laisser la place et de faire en sorte qu'un randonneur ou un joueur ne laisse pas son randonneur en arrière tout seul.
Alors, parce qu'on ne parle même pas de laisser son randonneur tout seul sur le plateau, c'est que si vous laissez un joueur, c'est 2 randonneurs sur le plateau, le mec, il va carrément... Vous avez fini, vous ne faites plus rien, et le mec, il va carrément faire encore une dizaine de cases et choper plus d'une dizaine de ressources. Nous, ce qui est rigolo, c'est que dans notre partie, en fait, on s'est planté 2 fois. Alors moi, je me suis planté, parce que voilà, je pensais que je pouvais faire ça. On en a discuté sur le moment où je me suis planté. Je lui ai dit, bon, bah, ok, tant pis, Voilà, et on a réussi à se planter aussitôt, à faire la même chose à la manche d'après, ce qui a carrément permis à la personne concernée de gagner, parce que en plus on venait d'en parler, elle a dit moi je fais la case là, la case là, la case là, la case là, hop, carte, et elle fait, j'en sais rien, 25 points sur la dernière saison.
Mais en fait, on ne sera plus à voir, parce qu'en fait, c'est nous qui avons mal joué, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant, on le sait qu'en fait, c'est à nous de faire attention, de ne pas laisser les ressources, et finalement, c'est un jeu très interactif, parce qu'il faut vérifier ce que fait l'autre, il faut vérifier où sont les autres randonneurs, et ce n'est finalement pas un jeu zen, comme je pouvais le dire tout à l'heure sur des jeux comme Tank Garden ou finalement Wingspan. Parks n'est pas un jeu zen, en fait, puisqu'il faut vraiment vérifier, il faut prendre la case, se mettre sur la case à la place des autres, pour pas qu'ils puissent récupérer la ressource. Donc c'est vraiment un jeu interactif.
J'aurais tendance justement à reboucler là-dessus, parce que effectivement on aurait tendance à penser que c'est un petit jeu où on va un peu faire notre truc dans notre coin et en essayant d'optimiser et en se disant si je travaille bien à la fin j'aurai mieux que les autres. Et clairement en fait, et c'est ça qui manquait, qui manque dans l'introduction, c'est de dire non, si vous faites ça, vous allez vous vautrer. Donc observez bien le jeu des autres. Et ça reboucle encore une fois avec ce que je disais, c'est que pour moi c'est pour ça que tu gagnes pas ta première partie. Parce que le jeu, tel qu'il se présente, tel qu'il est expliqué, tu penses que c'est un jeu d'optimisation, alors qu'en fait, tu risques de te faire bloquer. Enfin, tu vas te bloquer tout seul et les autres vont jouer. Donc voilà.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où ma première partie, j'ai tout compris.
Ça, c'est vrai aussi. Beaucoup de jeux, moi, je me rends compte, on avait mal joué. Oups, on avait oublié cette
règle. Après, si ça impacte tous les joueurs de la même façon, ça ne me gêne pas. Le problème, c'est quand ça impacte un joueur.
Non, toi, ça te gêne quand ça te fait perdre. Globalement.
En plus, mais là, ça m'a pas fait perdre, ça a fait gagner quelqu'un d'autre en l'occurrence, parce que c'était eux perdu aussi. Non, mais globalement, sur ce jeu-là, mon avis général, j'aurais envie en fait de l'adorer ce jeu. J'aurais eu envie de me dire franchement, il est beau. Enfin, déjà, rien que pour le matériel, il est fantastique. Le jeu est cool, ça se joue bien, c'est pas long. Donc, j'aurais vraiment eu envie de dire ouais, c'est pas innovant, mais c'est génial, et de le rajouter à ma bibliothèque. Pour l'instant, ma première partie, je me la suis gâchée tout seul à m'être énervé sur cette règle, à dire putain, mais ils sont cons, pourquoi ils ont fait ça? Voilà, c'est lié à mon comportement aussi, mais je pense qu'il faudra qu'on rejoue.
Il faudra
qu'on rejoue en ayant connaissance des règles. Et je pense que ça pourrait être un coup de cœur. Mais actuellement, on va dire, tu vois, moi je l'ai noté, je lui ai mis 7 sur 10 en sortie de partie, parce que. Ouais, alors non, mais pas 100 ans, t'as vu le matos, t'as vu le reste. Il y a du super bon boulot, il y a une règle qui merde. Je mets quand même pas 4, je suis pas. Mais je pense qu'il pourrait mériter un 8 ou un 9 chez certains joueurs, ça ne me surprendrait pas.
Ok. Très bien.
Je ne l'ai pas essayé, en tout cas, il ne me faisait pas trop envie, mais depuis une semaine que vous m'en parlez, il me fait très envie.
Ouais, moi aussi, complètement.
Je pense qu'en termes d'édition, c'est ce que j'ai vu de mieux.
Oui.
Sur l'année, c'est sûr.
Mais j'étais en train de lire, en fait, 2-3 trucs, je me demande si, à l'origine du jeu, en fait, il n'y aurait pas eu un travail, parce qu'en fait, il est illustré par... une trentaine, une quarantaine d'illustrateurs différents.
Si, il est fait en
association
avec les parcs aussi, parce qu'on a un petit jeton sur les préservations des parcs, etc.
Mais voilà, mais en fait, je me demande si... C'est K-Master, je crois, comme ça. Je pense qu'ils ne sont pas à l'origine de l'idée. Je pense qu'en fait, il y a eu, au départ...
un jeu de commande, quoi.
Ouais, à mon avis, c'est un jeu de commande. Ils sont allés trouver l'éditeur qui leur a permis de concrétiser la chose, quoi. Mais bon, à creuser, mais en tout cas... C'est fort de voir qu'il peut y avoir une unité aussi parfaite dans des graphismes, dans des trucs, alors qu'il y a une quarantaine de personnes qui a penché dessus.
Comme vous avez compris, si vous aimez le beau matos, les belles élus, foncez quoi. Et je passe la main à Chenin qui nous parle de Brass Birmingham.
Ah, ok, bon, alors Brass Birmingham. Brass Birmingham, c'est un jeu qui est en fait une suite d'un jeu qui était déjà sorti qui s'appelait Brass, qui date de 2007. C'est un jeu de Martin Wallace. Martin Wallace a eu beaucoup de succès avec ce jeu à l'époque, même si je ne le connaissais pas à l'époque. Mais depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la série Brass. Alors je dis la série Brass parce qu'on a Brass, on a eu ensuite Brass Birmingham et Brass Lancashire. Désolé pour l'accent. Brass Birmingham se passe en Angleterre entre 1770 et 1870. Donc c'est un jeu qui se joue entre 2 et 4 joueurs pour des parties annoncées de 2 heures. Donc là on est quand même sur des parties quand même assez longues, hein, sachant que la première fois il faut compter plus que 2 heures.
Facile. On a mis 3 heures et demie. Sans l'explication.
Oui, alors oui. Avec toi qui aime réfléchir.
C'est toujours de ma faute.
Non, je
c'est
pas
toujours
que c'est
toi
ta
qui
faute.
Prends plus de temps, de toute façon.
Et puis,
oui, 10 minutes de plus que les autres.
quoi qu'il en soit, je pense qu'on doit estimer la durée des jeux en fonction de n'importe quel type de joueur. Donc il peut y avoir des joueurs qui jouent vite, qui ne réfléchissent pas comme moi, et d'autres joueurs qui aiment bien réfléchir à tous les détails de leur coup, comme tu le fais. Ce n'est pas un problème. Enfin, ça peut être un problème si c'est 15 minutes par tour.
Dans tous les cas, ce n'est pas un jeu de 2 heures.
Ce n'est pas un jeu de 2 heures. J'y ai rejoué hier soir, d'ailleurs, et on a fait la partie en 2 heures et demie, à peu près, en faisant une entracte.
À combien de joueurs?
On était 4. Alors, je dis en faisant une entracte parce que, justement, ce qui est assez original dans ce jeu, enfin, il existe d'autres jeux qui font ce principe, c'est que le jeu est divisé en deux. Donc, deux périodes. On a une période depuis les 50 premières années, et ensuite, on a les 50 années suivantes. La première période, c'est ce qu'on appellerait la période des canaux, et la deuxième période, la période des chemins de fer. Alors, si je dis ça, parce que c'est justement pour introduire le fait que c'est quand même un jeu de gestion de ressources et construction, une construction d'industrie. Alors, on est vraiment sur la révolution industrielle, les machines à vapeur, les industries, le charbon, l'acier, etc. D'ailleurs, le plateau fait bien ressentir cette époque, cet esprit. Le plateau est sombre. C'est parfois même un peu difficile à lire parce qu'on sent vraiment, ils ont voulu mettre cet aspect de pollution, de fumée, etc. De l'époque.
Juste pour leur défense, le plateau a deux côtés. Tu peux prendre un côté qui est un peu plus contrasté.
Et un côté nuit, mais le côté jour même lui-même est assez peu contrasté.
Oui, mais c'est mieux.
Et on a quatre couleurs différentes pour les joueurs, les personnages. On ne peut pas dire que les couleurs soient vives. Les couleurs sont un peu ternes. Ça, c'est pour parler quand même de l'ambiance. Un petit défaut. Ça sert l'ambiance, mais ça ne sert pas la lisibilité du jeu, en tout cas. On a comme objectif, on est entrepreneur, on a comme objectif de développer notre réseau. Donc le réseau, un peu à la... comment s'appelle déjà le jeu où on fait les trains Railroad...
Les Aventuriers du
Rail. Les Aventuriers du Rail, voilà. Merci. Ça pourrait faire penser aux Aventuriers du Rail, sauf que là, la comparaison s'arrête là, parce que... on est quand même sur un jeu vraiment beaucoup plus expert. On développe notre réseau avec au début des péniches, ensuite des chemins de fer, en mettant des usines, et avec cette petite particularité qui est quand même assez scotchante, c'est que tout ce qu'on a construit dans la période 1, quasiment, va être supprimé pour la partie suivante. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait comme péniche, toutes les usines, les entreprises qu'on a mis en place qui sont restées au niveau 1, disparaissent. On ne garde que ce qui a été fait niveau 2 et on enlève tous les réseaux. C'est assez bluffant parce qu'on a l'impression qu'on a construit pour rien, mais en même temps, ça nous force à essayer de développer un maximum des entreprises, des usines de niveau 2, 3, 4, etc. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour le faire dans la première période.
Mais est-ce que dans cette première période, le fait de faire, imagine, tu fais 10 trucs de niveau 1, est-ce que pendant cette première période, ça te sert à quelque chose?
Ouais, ça sert à faire des points. La manière dont on compte les points, en fait, est calculée à partir du nombre de réseaux qu'on a fait autour d'une ville et en fonction du nombre de points qui sont sur les entreprises qu'on a mis en place.
Ouais.
Sachant que les entreprises, au début, quand on les met en place, elles servent à produire des ressources et il faut que les ressources soient épuisées pour qu'on puisse ensuite la vendre et c'est qu'à ce moment-là qu'elles vont faire des points. Et ça, c'est le sel du jeu, je trouve que c'est vraiment une super idée, c'est que les ressources... On n'a pas un jeu de ressources avec des EQL, des bols où on va prendre des ressources, on va les mettre sur le plateau, etc. Non, non. Les ressources, elles sont juste sur le plateau. On dit elles sont éventuellement sur le marché ou dans nos usines. Et on peut même utiliser les ressources des autres. Et elles sont quasiment gratuites, il suffit qu'elles soient là. Donc ça, c'est peut-être pas très cohérent, parce que acheter une ressource chez quelqu'un sans le payer, c'est un peu bizarre.
Bah, tu le payes parce que tu le fais avancer, ça l'aide quand tu prends ses ressources.
Oui, mais justement, oui, c'est vrai, ok, je comprends l'idée. Et en fait, ça oblige à ce qu'il y ait beaucoup d'interactions, parce qu'à chaque fois, on a choix entre soit prendre une ressource au marché, mais il faut la payer, soit la prendre chez soi, mais il faut qu'on en ait, soit la prendre chez quelqu'un d'autre, mais on l'aide. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est un jeu quand même qui est calme, mais qui oblige à la réflexion et à la communication, à l'interaction. Donc c'est un jeu qui peut paraître quand même complexe au premier abord, et au final, les tours sont fluides, ce n'est vraiment pas si complexe. Surtout que il faut noter que dans toute la liste d'actions qui nous est possible, il y a 2-3 actions en fait, qu'on ne fait jamais, quoi, qui sont vraiment optionnelles, qui sont des petits bonus, ou alors qui sont pour nous débloquer, si jamais on débloque.
On peut jouer à combien ?
On peut jouer jusqu'à 4. Alors, je pourrais dire encore beaucoup de choses sur ce jeu. En tout cas, il m'a un peu obsédé après la première partie. J'y pensais beaucoup. J'essaie de refaire la partie, même si, bon, ok, j'ai perdu assez largement. Mais c'est pas gênant pour moi. Et enfin, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
La preuve. Ça t'a marqué, bon, pendant trois nuits, j'ai pas dormi. Mais bon, ça, bon, je vais dire, limite.
Tu ne l'as pas affecté.
Non, puis en plus, le thème, tu vois, sur l'environnement...
Est-ce qu'il peut y avoir des associations, des alliés? Genre, je joue à 4, il y en a deux qui peuvent dire « Ah, on cède », pendant que les deux disent « Allez, on cède
ah ». Bah,
ou est-ce que c'est une mécanique qui ne peut pas fonctionner
S'il y a ça.
Ma femme et moi, on s'est beaucoup entraînés hier, et finalement, on a perdu tous les deux. Donc...
En fait, si tu as besoin d'une ressource, tu peux tout à fait dire, et que qu'elle est disponible sur plusieurs personnes, et que tu as accès à ces différentes personnes... Tu vas pouvoir choisir en fait chez qui tu la prends. Mmh. Et à partir de ce moment-là, tu peux dire hey, je prends chez toi, mais tu me renverras à l'ascenseur. Donc, le mec, libre à lui de ne pas respecter cette espèce d'accord ou autre, mais si tu vois qu'il y a un mec qui a beaucoup d'avance, ça peut être une façon aussi de le contrer un petit peu.
Tu n'as pas toujours le choix. Hein. Tu as le choix si.
C'est ce que j'ai dit, si tu as accès.
Non, tu as le choix aussi si elles sont, les ressources sont équidistantes.
Oui.
Sinon, tu dois prendre la plus proche.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Mais on a eu ce cas hein, d'avoir le choix.
Alors, juste une dernière chose, et avant je te laisse donner ton regard sur le jeu, Guillaume, enfin à Telsa, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est aussi la bière. La bière est un élément du jeu, c'est-à-dire en fait, on construit des brasseries, parce que pour pouvoir vendre nos entreprises, il faut avoir accès à de la bière.
C'est pour ça que vous avez aimé le jeu, en fait. Tout s'explique.
Ah ouais.
Alors non, mais pour la petite...
Ça n'a aucun sens.
Pour la petite... Si, si, c'est expliqué dans les règles. Ils disent, à l'époque, la bière était quelque chose d'important dans cet univers, dans les entreprises de la révolution industrielle, parce qu'on buvait rarement de l'eau. L'eau était polluée et elle coûtait plus cher que la bière. Donc la bière est obligatoirement un élément important du jeu. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que toi, tu fais des brasseries, et tu peux utiliser ta bière même si tu n'es pas relié à la brasserie. Par contre, tu peux utiliser la bière des autres, mais il faut que tu aies accès par des canaux ou par des chemins de fer.
Ok.
Et c'est vraiment sympa.
Et c'est sûr. Donc, tu disais, il y a un plateau hein, avec deux...
Il y a un plateau, et plus
et
des plateaux
qu'à c'est quoi les différences? C'est juste une extension du jeu de camp, les règles... voilà.
Aucune différence.
Ouais. Sachant que c'est un jeu qui a une version Kickstarter de luxe, qui sert juste à avoir des jetons de poker pour simuler l'argent. C'est la seule différence avec la boîte de base trouvée en boutique.
Par contre, c'est quali. Moi, pour le coup, je me suis dit qu'Audio, c'est la version Kickstarter, il n'y a que des chemins de poker à la place de l'argent. C'est vrai que c'est carrément du flan. Hein. Moi qui ai déjà acheté quelques Kickstarter, souvent je me dis, bon, en fait, c'est un peu du flan à la fin. Et en fait, j'ai vachement apprécié jouer avec les jetons de poker.
Alors, pour finir encore, je dis toujours pour finir, j'arrive jamais à finir. C'est un jeu sur BGG, Board Game Geek, qui est classé 3e de tous les jeux. C'est pas pour ça que c'est un bon jeu et que je vais aimer. Hein.
Non, mais c'est intéressant de le
noter. Mais c'est intéressant de le noter. Moi, je...
Rappelle le nom ? Brass
Birmingham.
Birmingham.
Et en fait, j'étais pas attiré par le jeu pour une histoire d'imaginaire où je voyais ça comme un truc vraiment très capitaliste, sachant que c'est pas trop mon univers.
Si, t'as pas le choix. C'est notre univers à tous.
Ouais, non, moi j'avais envie d'y jouer, donc quand on y a joué, c'est moi qui ai dit on joue à ça, je veux jouer à ça. Ce qu'il faut savoir, par exemple, toi ça t'intéresserait, Dr. Magic, la boîte, le couvercle de la boîte, l'illu est superbe, et c'est un. Tu vois, elle est blanche, et le dessin il vient un peu se fondre comme ça, tu vois, il apparaît petit à petit, quoi. Un peu comme un brouillard, justement. Mais du coup, elle est assez claire et lumineuse, cette boîte, alors que le jeu lui est super sombre. Donc il y a ce petit contraste-là, mais extérieurement, il est très beau. Après, le plateau est beau aussi.
C'est beau, mais clairement, la boîte n'a pas l'air ludique.
Non.
Tu vois, on n'est pas dans le meeple, on n'est pas dans le truc coloré.
Après, les gros jeux sont pour moi souvent comme ça, mais ça ne me choque pas, quoi.
Non, mais t'as raison.
Puis elle n'est pas là pour te vendre du...
Non, mais là, tu sens l'univers ludique. Tu regardes Tank Garden, tu sens que tu vas plonger dans un univers ludique. Tu regardes la coupe de Brass, machin.
Ouais, mais c'est deux univers complètement différents. Attention, Brass Birmingham, il te vend la révolution industrielle anglaise. Il te vend le fog. Il te vend la pollution, quoi.
C'est le cas aussi dans les jeux comme tu m'avais fait tester là avec c'est pas Gavroche là, mais t'es le gamin dans les rues de Londres, la London.
Oliver Twist.
Bon bah c'est la même période, c'est le même truc, mais tu vois la couve, ça a quand même l'air un peu plus ludique.
Oui, mais c'est plus BD. Là on est dans un jeu plus adulte.
Okay.
T'as un univers...
Les BD, c'est pas pour les enfants, je te signale.
T'as un univers dans Brass Birmingham que moi justement je trouve super respecté. Alors qu'il est ce qu'il a, tu vois, Christophe dit, à la base c'est pas son univers, mais cette révolution industrielle anglaise, enfin on sait à quoi. Enfin, justement, elle nous projette dans un Londres, tu vois, marron, tu vois, triste, le fog, tu vois, Peaky Blinders, bah, ça te jette dans Peaky Blinders, en fait. Et à ce niveau-là, ça marche, le jeu, les bâtiments, les élus, tout c'est immersif. C'est hyper cohérent, enfin, moi, je... Oui. Ce qui est... Tu vois, en plus, à la sortie du jeu, enfin, ouais, t'as ce que j'ai dit d'ailleurs par rapport à comment, je sais plus par rapport à quel jeu je disais tout à l'heure, Parks peut-être, où je disais, tu restes vraiment, tu dis, bah, là, je vais faire ma brasserie, là, je vais faire mon truc... T'es pas dans je prends mon meeple qui ne veut rien dire
ah oui,
pour le mettre sur la case là. Non, non, tu dis, tu décris ton action.
Tu mets du charbon, de la sidérurgie.
Ouais.
Et à chaque fois, elle a un sens. Tu le fais dans un but.
Ouais, ouais. Et tu dis, tu vois, j'ai besoin de charbon, j'ai besoin de bière. T'es pas en train de dire, bon, alors il me faut des cubes rouges pour mettre avec les cubes verts pour déplacer mon meeple marron. Il y a des jeux qui font ça. Et je dirais que des jeux que j'ai pas d'exemple en tête mais que j'aime et je sais qu'ils sont comme ça. C'est pas grave si je le sais. Mais Brass Mom Game, il a réussi à éviter cet écueil là. Et super cohérent quoi.
Et quelque chose de très important, c'est aussi, je trouve, la profondeur et la richesse de la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tu peux faire plein de parties qui vont être à chaque fois différentes, parce que ton plateau personnel est rempli de tuiles que tu peux poser, mais tu vas en mettre 20 à 30%.
T'as 5-6 types, on va dire, de bâtiments, et clairement, tu vas pas pouvoir tout faire.
Tu peux faire la poterie et la pisserie.
Voilà, tu vas choisir une ou deux industries que tu vas développer. Et du coup, la partie d'après, si tu pars sur d'autres industries, c'est pas forcément la même partie. Après, il y a un autre axe pour gagner des points qui est le développement soit des canaux, soit du réseau de chemin de fer. Et moi, je trouve que cet axe est relativement, voire très important dans le jeu. Peut-être et je soupçonne que c'est la méthode pour gagner. Donc.
Et alors, juste une question. C'est quoi la fin du jeu? Est-ce que c'est un de ces jeux où c'est en 4 tours ou est-ce que c'est le premier qui arrive à tel truc?
Alors, on joue avec des cartes en main et on dépense les cartes pour simuler le fait qu'on a joué notre action. Et c'est soit on prend n'importe quelle carte, soit on prend une carte qui correspond à l'industrie, soit qui correspond à la ville où on veut se mettre. Donc soit tu as des cartes qui ne te servent à rien et tu vas quand même les utiliser pour jouer, soit elles te servent à quelque chose pour... Et quand tu n'as plus de carte en main, quand plus personne n'a de carte en main, le jeu est fini.
À chacun de tes tours, tu joues 2 cartes. Donc quand la pioche est vide, tu vides ta main. Et quand les mains sont vides, la règle fait que tout le monde vide sa main dans le même tour. De toute façon, donc tout le monde joue le même nombre de tours. Et voilà, quand on arrive à la fin de notre monde, tu sais bien qu'il ne te reste que 2 cartes. Justement, tu as essayé d'optimiser ton jeu.
Et donc environ 1 heure.
Non. 2h30.
Ah ouais, 2h30.
Ah
ouais, gros, oui, là, ouais, d'accord. Si, gros jeu. Ouais.
Après, je pense que la deuxième partie, parce que tu vois, la première fois, je trouve que l'explication qu'on vous avait faite était assez longue pour un jeu que j'ai trouvé pas si difficile à prendre en main. Mmh. Donc je pense que la deuxième fois, tu fais hop, tu te plonges dedans, et là, tu connais un peu tes stratégies, machin et tout,
puis, et tu réfléchis pendant que les autres
jouent. Ouais, bien sûr.
Tout en faisant attention à ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent mettre à l'eau ce que tu as commencé à préparer.
Moi, j'ai pas trop été gêné par ça. J'ai trouvé que. Enfin, il faut, oui, surveiller parce que. En gros, s'il te pique une ressource que tu pensais prendre, bah, tu vas juste te réfléchir en disant « Ah, maintenant, il me faut cette ressource-là, donc je vais essayer de faire le bâtiment pour la produire, en fait. » Ta réflexion, elle est là. C'est, est-ce que moi, j'ai cette ressource-là ou est-ce que je m'appuie sur quelqu'un d'autre? Il a vraiment des axes de réflexion vraiment sympathiques. C'est une super découverte, franchement.
Ouais, moi, je mets 9 sur 10, facile.
Je sais plus si je lui ai mis 8 ou 9. Un petit 9, un gros 8, on est dans ces eaux-là. Ouais.
Super, cool.
Mais à réserver, après, voilà, à quelqu'un qui va se lancer dans un gros truc, quoi.
Tout le monde sait que tu vas faire une partie un peu longue.
C'est pour ça, quoi. C'est stéréo.
C'est tout à fait pour moi, tout à fait. Mais c'est vrai que j'aime bien. C'est le type de jeu, je pense que j'aimerais, mais il faut que je me prépare psychologiquement aux 3 heures de partie.
Il faut qu'on fasse toutes les campagnes de Maracaibo avant.
Non, mais tu fais une coupure pub entre les deux parties. Tu vois, tu te poses pendant un quart d'heure, hop, des glaces.
Ouais, mais à la fin, tu auras quand même eu l'impression de faire un truc qui dure 3 heures.
Ouais, mais ça revient à faire 2 jeux.
Bon, sur ces bonnes paroles, merci à tous d'être venus. On se retrouve prochainement pour un podcast film, pas livre, film.
Ouais, d'accord.
Personne. Ouais. Et à bientôt.
Salut.
Salut.